Ce 8e épisode vous invite à rencontrer André, ancien président de la Société régionale d'horticulture de Montreuil.
Bonne écoute.
Eh bien, je vais me présenter puisque vous me demandez si gentiment. Je suis donc Monsieur Patureau. Je suis un descendant de famille d'horticulteurs qui est venu à Montreuil travailler. Mes grands-parents sont venus de Bourgogne travailler sur les terrains de Montreuil, dans les murs à pêche, comme on dit maintenant, mais ça, c'est une autre histoire. Mes parents ont continué la culture toujours dans ces murs, culture de fleurs et de pommes. Moi, automatiquement, j'ai continué le même chemin qu'eux, mais je ne suis pas dirigé pour continuer la production familiale. Sachant qu'à cette époque, j'avais déjà très vite compris que c'était en train de s'en aller tout doucement vers d'autres endroits, qu'il fallait changer d'optique, fallait rester dans le jardinage, mais tout simplement, fallait prendre une autre option. Donc, j'ai continué normalement au lycée d'horticulture, mes études, école du Breuil après, pour avoir une certitude d'avoir un beau CAP, comme on dit toujours, et je suis rentré en 1960 aux Espaces Verts de Montreuil, d'où j'ai fait ma vie professionnelle pendant 40 ans. Je suis rentré le 5 septembre et je suis ressorti le 5 septembre 2000. 40 ans après, j'ai posé mes clés en remerciant les gens qui avaient travaillé. J'ai été intégré, si l'on peut dire, entre parenthèses, aux réunions d'horticulteurs qui se disposaient tous les mois à la justice de paix à l'époque. Il y avait une réunion où tout le monde, toute cette grande famille d'horticulteurs, se retrouvait pour discuter des choses et d'autres. Et l'on m'a demandé, toujours en réunion dans ce jardin école, après un vote tout à fait légal, tout ça, de prendre la présidence de cette belle association régionale. Ce jardin école a été créé sur la demande d'une association, parce que la Société d'horticulture était une association à l'époque, mais d'une fédération. Ces gens, intelligemment, se sont réunis entre associations. Il y avait donc 7 sociétés d'horticulture et 2 syndicats d'ouvriers cultivateurs et de cultivateurs qui se sont réunis de la région Est de Paris, qui se sont réunis ensemble en fédération, qui ont demandé au maire de Montreuil s'il était possible d'avoir un terrain pour enseigner l'horticulture et tout ce qui s'en suivait. Le maire de Montreuil a pris des terrains qui venaient de legs d'anciens cultivateurs. Ici, c'était des terrains qui étaient déjà légués à la ville. Il a donc donné, par un bail emphytéotique, en 1920, pour une durée de 99 ans, donné ses... Ouais. Mais il fallait quand même payer ce bail. Un franc à l'époque, c'était quand même un franc symbolique que j'ai payé jusqu'en l'an 2000. J'allais payer toujours mon franc symbolique à la recette municipale. Et je demandais gentiment à la trésorière qui était de me faire le reçu. Quand ça a été transformé en euros, c'était plus ennuyeux parce qu'on a voulu me mettre l'euro, un euro symbolique. Je dis non, moi je suis encore sous le bail d'un franc. Un franc, 0,15 euros. Donc la trésorière municipale me faisait un reçu de 0,15 euros pour un an. Pour mes comptes, mais je suis obligé. Moi je dois donner mes comptes tels qu'ils sont, ça doit être impeccable. M'étant aperçu par la lecture du bail au verso qu'il y avait la possibilité de reprise des terrains et des bâtiments, bien entendu, par soit la municipalité ou un autre organisme, étant méfiant de nature, j'ai donc demandé au député maire à l'époque s'il était possible d'assurer la continuité de la société par un avenant en faisant qu'elle devienne l'unique locataire de ce jardin-école. Voilà. Ça a été ma principale préoccupation de mon mandat, si vous préférez, de président.
Et donc,
c'était d'assurer la continuité de la société dans le jardin-école. Voilà. C'était tout simplement ça, pour transmettre, continuer de transmettre. Moi, je suis toujours parti du principe que si l'on veut enseigner quelque chose à quelqu'un, il faut savoir lui transmettre les choses. Or, comment... C'est une question de relationnel. Comment pouvoir transmettre quelque chose si on n'a pas le lieu pour le faire, si on n'a pas les instruments pour le faire, si on n'a pas des photos, si on n'a pas des documents, si on n'a rien. Or, ici, au Jardin Colonne, nous avons tout. Nous avons le lieu, qui est vraiment montreuillois, qui provient de dons d'anciens montreuillois à la municipalité. Nous avons la construction des bâtiments où il y a le petit musée, qui renferme multitude d'objets et multitude de documents, bien entendu. Nous avons un bâtiment à côté où il y a un gardien que j'ai nommé responsable des collections du musée, qui est donc à côté, veiller à ce que les collections soient là, que personne n'en fasse quoi que ce soit, hein, qu'elles disparaissent pas, tout ça. C'est toute une sécurité assurée. Il fait comme tout le monde, il participe aux travaux du jardin, mais sa fonction officielle dans les statuts, comme c'est ça. Il est le gardien du jardin école et responsable des collections. Okay. C'est énorme. Il faut assurer la sécurité pour ça. Il y avait les élèves du lycée d'horticulture qui passaient dans leur partie qui est attribuée, la deuxième partie qui est derrière le mur, ça appartient au lycée d'horticulture. Les élèves passaient régulièrement par l'entrée principale du jardin école et allaient là-bas. Ce qui était très bien, puisque c'était la continuité aussi de ce que j'ai vécu moi en 56-60. J'allais au jardin école, on était dedans. Et pourquoi j'aurais fermé la porte au lycée à l'époque ? C'était tout à fait normal que ces élèves continuent de passer. Le territoire des murs à pêche. Vous voyez, vous m'avez posé une question qui... Je ne dis pas qu'il va m'embarrasser, parce que je suis loin d'être embarrassé par cette question. Mais j'ai déjà répondu à cette question en 1996. Donc, depuis 1996, ce que j'avais formulé à l'époque, devant le préfet, devant cette assemblée, je vous raconte l'anecdote très vite.
Oui.
Et l'école de Versailles nous m'invite un jour. Le directeur me demande si je peux assister à une réunion qu'il va organiser au parc Montereau, avec donc le maire de Montreuil, le député, le préfet, etc., etc., pour me présenter un projet sur les murs à pêche. J'ai dit oui, il n'y a pas de raison. Je participe donc à ce colloque, si on peut dire. Et des élèves de cette école du paysage présentent un projet. Très bien, tout, je regarde, tout. Et le directeur me demande mon avis, après, alors que nous étions quand même une cinquantaine de personnes, pourquoi moi spécialement, hein, on ne sait pas pourquoi, je ne saurais toujours pas pourquoi, je ne préfère pas. Il me demande mon avis. Je dis, vous voulez vraiment que je vous donne mon avis, comme je vais vous le donner. Alors, je vais voir les élèves, je dis, vous avez fait un travail magnifique. C'est vrai, ce qu'ils avaient présenté comme projet, c'était parfait. Je dis, vous voyez, il y a exactement la situation des murs à pêche en 1996. Vous avez fait le rêve, mais il y a la réalité des choses. Le rêve, c'est ce que vous avez présenté dans votre projet. C'est trop beau. La réalité des choses, si vous voulez, on va en discuter. Je vais vous expliquer pourquoi ce territoire est devenu comme il est actuellement. Si maintenant, si vous voulez sauver ce territoire, il faut faire ça, ça et ça. Ça n'a jamais été fait. Bon, ben maintenant, c'est tout. Moi, c'est un terrain, un vaste terrain. C'est une désolation de voir ce terrain, comment il est devenu. On trouve de tout. Il y a des gens très sympathiques qui veulent sauver ça, mais ils ne peuvent plus. Maintenant, vous prenez les murs, ils sont tellement dégradés, partout dans cette zone, ils sont tellement dégradés qu'on ne peut plus les remettre en état correctement. On ne peut faire que certaines réparations. Or, quand j'entends le mot restauration, ça me fait sourire, parce que c'est pas ça une restauration. Une restauration, c'est on reprend le monument, la structure complète, et on la fait suivant comment elle a été construite. Or, plus personne ne sait réparer ou restaurer un mur à pêche. Réparer, oui. Restaurer, non. Il y a des techniques particulières. Vous verrez un dessin dans le musée. Comment est construit un mur à pêche? Comment c'est fait? Du tap, comme on dit, pour savoir faire quelque chose qui se voit. Or, la politique, on en arrive à cette politique, malheureusement, de la municipalité. Je sais que je ne devrais pas en parler, mais ne vous inquiétez pas, je ne dirai rien de spécial. La politique voulue, c'est de conquérir tout cet espace de Murapesh. C'est ça. La politique de la ville, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas d'il y a 10 ans, c'est pas d'il y a 20 ans. C'était 1950, c'était déjà prévu. Il y avait une optique, c'était on veut prendre toute cette zone de mur pour en faire quelque chose que vous devinez qu'est-ce qu'on peut faire dessus. Bah, sauf du jardinage. Ils voulaient faire un foncier. Ils voilà. voulaient acquérir un foncier voilà. énorme voilà. de 38 hectares pour pouvoir faire après ce qu'ils voulaient. Il y a eu donc à ce moment-là une opposition qui s'est créée. Ce n'est pas l'association Murapesh. La première association qui a défendu le projet de ZAG, comme ça allait se parler, c'était l'ADHM. Il faut bien se dire les choses telles qu'elles sont. La première association qui a défendu les Murapesh, c'est l'ADHM, l'association de défense des habitants de Montreuil, dont le siège social était Impasse Gobétu, en 1990. En 1992, M. Mage, avec l'association MOAP, a pris le relais pour défendre les Murapesh, mais c'était déjà trop tard. M. Fantini, qui malheureusement nous a quittés, qui est un adhérent de la Société d'horticulture, qui habitait à Impasse Gobétu, c'est un homme d'une gentillesse, d'un savoir, d'une connaissance. C'était, bref, malheureusement, il a été rappelé ailleurs. Et lui, il aurait pu vous parler de la restauration. C'était le seul qui connaissait encore la restauration. Il avait travaillé donc avec certains troubles pour la restauration. Et lui, il a refait des morceaux de mur ici, suivant à l'ancienne. Parce que l'on fait actuellement, on ne prévoit plus les piliers. Les murs à pêche sont constitués de piliers, constitués de pierre et de plâtre. Et ça ne se trouve plus. Et alors se posait la question, parce que les gens qui travaillaient la terre n'étaient pas riches, il fallait récupérer ces clous pour pouvoir palisser autrement. Et comment faisait-on pour récupérer un clou? Avec le marteau, vous donnez un coup sur votre clou. Non, sur votre mur, oui, sur votre clou. Oui. Vous enfoncez votre clou. Au lieu de le retirer, vous l'enfoncez. C'est normal, c'est comme ça. Donc vous pouvez l'enlever facilement, parce que lorsque vous avez tapé dans le clou, vous décollez la roue qui est tout autour du clou, parce que le clou rouille dans le plâtre. Une erreur fondamentale aussi, c'était le classement qui a été fait. On ne fait jamais un classement d'un secteur, d'un endroit. On ne le divise jamais en quatre parties comme il est fait à Montreuil. C'est ridicule. Comment pouvez-vous entretenir un territoire classé alors qu'il y en a quatre ici à Montreuil à entretenir? C'est impossible. Donc, moi, j'ai donné l'opinion du président, de ce qu'on en pensait. J'ai donc donné mon opinion. On n'en a pas tenu compte, absolument pas. C'est une question de possession de terrain, une histoire de construction de maison. Donc, moi, quand vous avez la plus belle chose que j'ai pu voir, moi, quand on m'a présenté, c'est l'étude Corajou. L'étude Corajou, c'est elle qui est à la base de tout, l'étude Corajou pour les murs à pêche. C'est à partir de là. À partir de là que tout a bougé. Eh ben, voyez. Et c'est pourtant de là que tout a démarré. C'est en 1990, c'est Corajou, Michel Corajou, a présenté, le député maire lui avait demandé de faire un plan, un projet sur l'ensemble des murs à pêche. Il avait fait un truc, mais je l'ai, mais bien sûr, je l'ai même à la maison. Moi, j'ai eu la chance de l'avoir. J'ai l'original. Bon, ma grand-mère habitait rue Victor Hugo, qui est derrière la mairie. Tous ces gens étaient le matin, pour parler de ces gens, tous les gens habitaient principalement dans le bas de Montreuil, enfin dans l'ensemble de Montreuil. Donc, ils avaient deux vies, en communauté urbaine. Et le matin, quand ils partaient avec leur charrette, n'importe quoi, tout ce qu'on voit, ils allaient dans la partie supérieure du territoire, du plateau de Tilmont et tout ça. Et là, ça n'existait plus. Chacun était bien individuel. On rentrait par la petite porte on fermait sa porte de jardin. Et là, pas question que quelqu'un vienne, même le voisin ou l'ami, on ne rentrait pas. C'était un secret. Ce que l'on faisait comme culture, c'était protéger. Et là, on n'avait pas le droit. Si on voulait offenser quelqu'un, on rentrait chez lui. Et là, ça se passait mal, parce que je ne vous ai pas demandé de venir. C'était pour l'espionner, pour savoir s'il avait telle plante. C'était super bien, parce qu'au moins, c'était des gens qui défendaient leurs valeurs personnelles, ils défendaient leurs biens, ils défendaient ce qu'ils produisaient. On ne trouve plus ça maintenant. Ils ont créé le syndicat des cultivateurs en 1887. Ils ont créé la société d'horticulture en 1878 à la suite de cette exposition universelle. Ouais. Ils ont su la rendre régionale en faisant venir d'autres associations pour créer une fédération. Parce qu'une fédération ne se crée pas comme ça. C'est une association, la fédération, a regroupé plus de 3000 personnes. C'était quand même un monstre. Et quand on veut être entendu par les pouvoirs publics, bah lorsqu'on n'a qu'un seul représentant au nom d'une fédération qui vient discuter avec vous, c'est pas la même chose que 50 manifestants qui veulent obtenir quelque chose, ou 50 présidents d'associations. Non. La personne qui est habilitée à ça, le président d'une fédération, c'est un poids qui n'a plus lieu maintenant, parce que la fédération, parce qu'elle le sait, je lui ai dit, tout ça, ça n'a rien à voir avec la fédération qu'a travaillé au jardin école. Les 9 dixièmes du territoire de Vieux-Montreuil étaient occupés par les horticulteurs. Et c'est là que l'on voit que les horticulteurs n'étaient pas peut-être aussi bêtes qu'on le pensait parfois. Qu'ils étaient très intelligents, ces gens-là. Ils ont su anticiper l'arrivée du train à Paris. Donc, les quelques familles très, très riches, aisées, qu'on peut faire, sont descendues dans le sud. Et il y en a encore des champs entiers de pêcher, dans Provence, tout ça. Ils ont acheté des terrains, pratiquement rien. Ils ont planté des pêchers, ils savaient parfaitement le faire. 4 ans après, ces pêchers étaient productifs. Le train est arrivé. Donc, ils passaient, ils n'avaient qu'à prendre les fruits et monter à Paris. C'était hyper simple. Si vous préférez, ceux qui pouvaient le faire, donc, savaient qu'il n'y aurait plus cette horticulture à Montreuil, cette culture. Ils le savaient. Ils l'ont dit d'ailleurs dans les livres, c'est marqué dans les livres. Les murs à pêche ont eu une vie. Ça s'arrêtera. Pourquoi ça s'arrêtera? Parce que c'est dans la norme des choses. Et de toute façon, ce que j'ai toujours dit, un mur à pêche, c'est un mur peut-être, mais on en a des pages, on en a parlé de ces murs à pêche, comment c'était, etc. Mais qu'est-ce que c'est qu'un mur à pêche en réalité? Qu'est-ce que c'est véritablement un mur à pêche? Qu'est-ce que c'est pour l'horticulteur, le cultivateur qui est là? Un mur à pêche, c'est un outil de travail. C'est simplement un outil de travail sur lequel il va palisser des arbres, il va confectionner des choses, il va calquer, il va travailler tout ça. C'est un outil de travail. Or, ces gens sont morts. L'outil de travail est toujours là, il se dégrade. Personne ne prend la relève parce qu'ils ne savent pas le travailler, ils ne savent pas le travailler dedans. À quoi ça sert? À quoi ça sert de refaire des murs qui ne vont servir à rien? Comment vous faites pour faire avoir une activité agricole alors que tous les terrains sont à l'abandon, sont pollués, sont archi-pollués? Ils sont envahis par des personnes qui ne pensent qu'à voler. Parfois, c'est quand même malheureux de voir comment pouvez-vous faire une entreprise. Tout le monde est parti. Pourquoi? Ils ont une récolte, on vous la coupe. Il faut voir aussi, voir les choses en face. Actuellement, dans les murs à pêche, c'est un énorme débarras où tout est en train de se casser la figure. Je l'ai toujours dit. Et maintenant, malheureusement, je pensais me tromper un peu, mais j'ai raison. Qu'est-ce qu'on va faire de ces 4 territoires? Qu'est-ce qu'on va laisser se dégrader? Qu'est-ce qui risque? Moi, ce qui me fait peur dans tout ça, c'est qu'un jour, il y a un accident. Parce qu'un mur tombera un jour, c'est sûr. Là, il y a eu un film qui est passé dernièrement. C'était très bien, c'était tout beau. Mais non, c'est pas vrai. Moi, je l'ai dit quand il y a eu la fin de la projection. J'ai dit, c'est pas ça, les murs à pêche. C'est beau, c'est bien, c'est idyllique. On en fait ce qu'on en veut, on en parle. C'est comme ça. Oh bah oui, il faut refaire les filons de clôture, on va faire un mur à pêche, c'est très bien. D'accord. Mais dites-moi, à quoi vous allez faire? Ceux qui ont été faits. J'ai posé la question à la maison des murs à pêche derrière. J'ai dit, qu'est-ce que vous avez fait des murs là-bas qui sont réparés? Qu'est-ce que vous allez en faire? Bon, mais voilà. Bah, j'ai dit, voilà, merci pour votre réponse. Ils ne peuvent rien en faire, ça sert à rien. C'est du visuel. On regarde de haut, c'est beau, c'est bien, mais allez travailler dedans. Moi, je dis, allez travailler dessus. Là, quand les gosses, ils sont là en train de toucher la terre, planter une graine, c'est pas la plus belle des choses, ça.
Ben si.
Il n'y a pas de politique, il n'y a rien dedans. On prend un truc, on met, oh, puis ça pousse, oh, c'est beau. Ouais. On vient me faire voir, oh,
et vous, Dédé, ça, c'est la politique,
regarde
ça
comme. C'est la bonne politique. C'est l'éducation de l'enfant. C'est ça.
C'est politique, l'éducation.
Oui, mais alors là, on a la politique partout. On s'en sort plus. On a d'énormes activités avec les gens du quartier, avec On a beaucoup d'activités. On a eu dernièrement l'Assemblée générale de la société. Vu le nombre d'associations qui viennent, qui se déplacent, c'est un lien constant. On a la relation avec... Ça nous permet d'avoir une relation constante avec la mairie, avec les services, avec les gens, avec les comités de quartier, avec tout ça. Ça ne fait qu'un. Et notre désir, on a créé un marché, un petit marché tous ouais. les vendredis. Ça attire du monde, on en discute. On a lancé par le biais de notre jardin d'école, on a ouvert la porte, au moment de dire, aux gens qui voulaient faire quelque chose. Ça a permis à des gens qui n'auraient jamais mis le pied ici de venir avec leurs enfants pour voir, tiens, il y a ça. Bon. Amener la discussion, amener d'autres liens, amener à d'autres activités. La pollution de l'EIF n'est pas due à celle qui est dans les murs à pêche. Il y a eu la période où plus rien ne s'est passé dans l'EIF, tout ça. Mais les produits étaient dans des citernes en dedans. Ils étaient dans des citernes. Dans des citernes sous les bâtiments. C'est pour ça que je me suis un peu pris une fois avec une personne qui... tout ça. J'ai dit non. Pollution EIF, il y a. Pollution du sol par hydrocarbures, il y a. Mais par la faute de ceux qui ont laissé des gens jeter ces ordures-là, le long du rue notamment. Ne confondons pas, et j'ai bien découvert une autre pollution par hydrocarbures. J'ai enfoncé un morceau de bois d'1,50 m dedans, c'est filmé, je le fais, je ne savais même pas que c'était si profond. Donc il y a pollution par hydrocarbures. Ces hydrocarbures, lors du débordement du rue, a entraîné tous ces hydrocarbures dans les jardins. Le rue est redescendu une fois, ça c'est assez. Il est remonté une deuxième fois en entraînant une deuxième fois ces hydrocarbures. Quand vous reprenez le sol, c'est luisant. Alors quand on m'a dit, une personne de la municipalité m'a dit, mais non, c'est pas de la pollution. J'ai dit, toi, vous y allez, on va voir, c'est moi ou vous qui êtes menteur. Pour ma part, je pense que s'il y avait simplement une analyse, on verrait peut-être différemment. Faites une analyse. On m'a jamais proposé de faire une analyse dans mon jardin. Mais j'ai malheureusement un terrain encore, oui, dans les murs à pêche. Hélas. Et je suis donc, de par mes grands-parents et mes parents, j'ai donc hérité de ce terrain. Mais je ne peux rien en faire. Je n'ai pas le droit de faire quoi que ce soit dans mon jardin, ni de construire ma maison pour finir ma vie. Parce qu'il est classé. Voilà. Donc, en faisant ce classement, on dépossédait les propriétaires de ces parcelles, on les dépossédait complètement de ce qu'ils avaient conservé de leurs parents. Et ça, je ne peux pas l'admettre. J'imagine. Moi, je n'ai pas le droit de faire ce que je veux chez moi. Eh bien, on va faire autrement. Donc, les gens qui ont fait raisonner sont partis. Comment faire quand on ne peut plus rien faire d'un terrain ? On ne peut pas le vendre, on ne peut pas le louer, on ne peut rien en faire. Comment faire ? Eh bien, ils donnent les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont trouvé des entreprises qui ont amené des saletés dans leur terrain. Puisqu'on ne peut rien en faire, certains ont dit, puisqu'on ne peut rien en faire, on emmène 1 mètre de terre de chez nous. Donc ils ont enlevé la bonne terre de leur terrain. Ils avaient le droit, c'est légal. 1 mètre de terre, ils ont emmené. Ils ont laissé que de la saleté. Les autres ont remblayé par des saletés. Et le plus gros pollueur, c'est malheureux à dire, qui aurait dû montrer l'exemple, c'est quand même la ville, qui a remblayé des terrains par des ordures complètes. La prairie qui est à rue Pierre de Montreuil, c'est un champ d'ordures qui a été poussé au bulldozer. Quand vous voyez ça, comment pensez-vous ? Qu'est-ce que vous pouvez penser de gens qui se disent « La protection des murs à pêche, ce n'est pas vrai. On continue de la détruire, cette zone. » Donc si on détruit cette zone, on ne pense pas. On pense à dire « Vite, 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 ça va tomber tout ça. Après, on en fait un foncier. » C'est un peu le but. Rechercher, c'était d'avoir le plus de foncier possible, puisque vous ne pouvez plus rien faire. Et vous, descendants d'horticulteurs depuis 3 générations, on vous dit « Ah non, monsieur, vous n'avez pas le droit. » « Ah bon, j'ai pas le droit. » « Bon, ben, j'ai pas le droit. Oui. » Eh bien, je la laisse à l'abandon. C'est normal. « Ah, mais je vais pour tondre, nettoyer comme ça. » Par contre, la municipalité est contente de venir chez moi pour voir le rue. Mais j'ai des bonnes relations, hein. Je critique la municipalité, mais j'ai des bonnes relations avec. Mais ça ne m'empêche pas de dire qu'au niveau urbanisation, mais tout à fait. Et moi, je l'ai dit en tant que président. C'est mon rôle de le dire, de le faire.
Bien sûr.
Actuellement, on se fout du monde. Excusez-moi l'expression, je ne devrais pas le dire. On n'a pas le droit d'avoir un langage d'un côté et un autre d'un autre côté. On dit aux gens, conservez les murs à pêche, refaites les murs à pêche, tout ça, refaites des activités horticoles dessus, etc. D'un autre côté, on dit, oh, plus vite on tombe, plus vite on va raser, plus vite on va construire. Bon, pourquoi bras réarculer? Parce qu'il y a une pression du monde. Parce que chacun a une chose qui est capitale aussi. Chaque participant, chaque personne qui avait un projet, tout ça, si vous les prenez un par un, les projets, vous les regardez par ma superposition, et bien vous allez voir que tous ces projets, le seul qui était valable en tout, c'était le projet Corajoux à l'époque.
À la réalisation et au montage,
Vladimir Cruels et Matteo Califano de Voix Machine
et Léa Longeau de Didatica.
Émission produite par le collectif Voix Machine avec le soutien du contrat de ville d'Est Ensemble et de la CAF de Seine-Saint-Denis.
Une playlist a été constituée à partir des choix musicaux des 17 acteurs rencontrés. Vous la retrouverez dans les différents épisodes.
Nous remercions toutes celles et ceux qui ont bien voulu partager leur point de vue.
Merci pour votre confiance et à bientôt pour un prochain épisode.